un intérêt marqué sur un sujet particulier? Jusqu'au 4 mai, soumets ton projet d'émission et tu pourrais devenir un des collaborateurs de Choc.ca dans notre programmation d'été 2016. Tous les sujets sont permis. Information, sport, environnement, politique, humour, musique, culture, contre-culture. Cet hiver, joins-toi à une équipe diversifiée qui axe son travail sur la découverte du monde sous un œil différent et qui nage à contre-courant de la culture de masse. Pour toutes les informations, www.choc.ca/s'impliquer.
Les productions Nuit d'Afrique vous invitent au gala de la 10e édition des Célidors de la musique du monde. La distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde. Le jeudi 28 avril au Théâtre Fairmont dès 20h. Venez nombreux voter pour vos artistes coup de cœur, ceux qui seront consacrés Célidors d'argent et de bronze. Prenez part aux Célidors, le prix du public fait grandir le monde. Pour plus d'informations, célidors.com.
Pour prendre un verre entre amis, rien de mieux que le Bar Grenade au coin de la rue Ontario-Est et Champlain. Le Bar Grenade, une brasserie orientale tendance et branchée dans Ville-Marie. Avec nourriture d'inspiration asiatique, c'est l'endroit idéal pour vos 5 à 7 qui se terminent aux petites heures du matin. De plus, venez assister une fois par mois aux soirées luttes de choc.ca. Sans oublier de venir nous voir aux soirées Full Moon Party thaïlandaise lors des soirs de pleine lune. À quelques pas de la station Papineau, pour une ambiance explosive, le Bar Grenade au 1603 rue Ontario-Est à Montréal.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte sur choc.ca.
Donald Trump est officiellement candidat à la présidence américaine. Justin Trudeau fait des push-ups. Obama qui drop son mic. Tout ça, c'est la photo média.
Croyez-vous que les médias ont une part de responsabilité dans votre défaite?
Pas du tout. Les médias ont toujours raison. Les médias ont toujours raison.
Bonsoir et bienvenue à l'émission La faute aux médias. Donc, tout d'abord, je vais présenter mon équipe. Bonsoir les beautés.
Bonsoir Emilien.
Donc vous vous doutez peut-être du sujet de notre émission ce soir, mais je vais vous les présenter. Nous avons Francis Suot, Myriam Bernin ainsi que Camila Rodriguez-Sia autour de la table aujourd'hui. Et ainsi que moi-même, Emilien Roscanou à l'animation. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi d'autre? De PKP, du Parti québécois, des médias. Tout ça, ça se connecte beaucoup. Tout d'abord, on va quand même aller faire un petit historique là, des démissions choc, parce qu'on sait que Pierre-Carl Péladeau a démissionné cette semaine de la chefferie du Parti québécois en grande pompe. Donc Myriam, tu vas nous parler de cet événement qui a choqué toute la classe politique québécoise, mais d'autres événements qui ont secoué la vie politique par des décisions de départ un peu similaires, mais dues à des raisons multiples et variées. Quels exemples peux-tu nous donner?
Alors, comme nous le savons, vie politique est parfois synonyme de rebondissement. Et sans vouloir tomber dans l'information spectacle, certaines démissions font plus de bruit que d'autres. À l'exemple de celle de l'ancien chef du Parti québécois, André Boisclair. En effet, il avait été épinglé à l'époque à cause de sa consommation de cocaïne, même si cette histoire ne l'avait pas empêché de remporter la direction du PQ avec 54% des voix 2 années auparavant. Ce qui d'ailleurs en avait fait, pour la petite histoire, le plus jeune chef de l'histoire du PQ élu à seulement 39 ans. Mais lors de la défaite électorale de son parti le 26 mars 2017, 2007, pardon. Oui. C'en est trop pour l'homme qui est à la tête du Parti québécois. Il est durement critiqué de toutes parts, autant par sa famille politique que par l'opposition et les médias. Son leadership est fortement remis en question, notamment par Gilles Duceppe qui, à cette époque, aurait souhaité quitter le Bloc pour diriger le PQ. Donc, suite à ces divers événements, André Boisclair décide de démissionner le 8 mai 2007, à seulement 41 ans. Il affirme alors qu'il n'a plus l'autorité nécessaire pour réformer son parti et quitte définitivement la vie politique quelques années plus tard.
Donc, ça date pas d'hier qu'il y a eu beaucoup de roulements comme ça au Parti québécois.
Effectivement. Et d'ailleurs, dans le même parti, mais dans une toute autre veine, nous remontons ensemble plusieurs années en arrière et nous retrouvons Jacques Parizeau. Il s'agit donc de l'ancien chef du Parti québécois de 1988 à 1996. Et durant ce mandat, il a été élu Premier ministre du Québec durant l'année 1994. Sa carrière politique fut marquée par un événement que vous connaissez sans doute très bien. Je parle ici du 30 octobre 1995, date à laquelle Jacques Parizeau ouvre un nouveau référendum sur la question de la souveraineté du Québec. Il déclare auparavant lors d'une entrevue qu'il donnera sa démission en cas de défaite. Et c'est ce qui arriva à moins d'1%. Un résultat vraiment serré qui n'empêchera pourtant pas sa démission dès le lendemain du dit référendum après 1 an, 4 mois et 2 jours au pouvoir. Celui qui est considéré comme l'un des bâtisseurs du Québec moderne est décédé l'année dernière et sera donc parti avant de voir son rêve de souveraineté se réaliser. Et pour terminer, je vais vous parler d'une démission dont les motivations sont plus proches de celles de PKP, à savoir la démission de Nathalie Normando en septembre 2011. L'ancienne vice-première ministre du Québec n'a pas eu un parcours des plus calmes, surtout lors de ses 2 dernières années de mandat, avec une vie personnelle qui a fait les manchettes à partir de 2009 sur sa relation avec un député adéquiste, puis plus tard sur sa relation avec l'ancien chef de la police de la ville de Montréal. Mais sa dernière année en fonction fut surtout difficile à cause de sa position concernant les gaz de schiste et les redevances des ressources naturelles, un dossier qu'elle avait piloté et dont ses positions furent vivement critiquées et remises en cause. Pourtant, elle avait affirmé à l'époque que les problèmes rencontrés dans ce dossier sensible n'ont pas pesé dans sa décision de quitter le gouvernement. Et lors de l'annonce de sa démission, la numéro 2 du gouvernement de Jean Charest avait évoqué un besoin de repos, de stabilité et de sérénité dans sa vie personnelle et a affirmé quitter la scène politique sans amertume. Elle avait également souligné l'exigence de cette vie politique qui demande de nombreux sacrifices. Son parcours prit fin à mi-mandat alors qu'elle avait 43 ans, après 13 années comme députée libérale et 8 ans comme ministre. D'ailleurs, l'ex-ministre a récemment été accusée de complot, de corruption, de fraude et d'abus de confiance. Nous verrons bien comment se termine ce dossier-là.
Ben merci beaucoup, Myriam.
Avec plaisir.
Pour ce petit tour d'horizon des démissions choc de la politique québécoise. On se dirige maintenant vers Camilla. Donc, beaucoup voyaient d'un bon œil l'implication de Pierre-Carl Péladeau en politique en disant que son lien avec le monde des affaires serait peut-être bénéfique au projet de souveraineté du Parti québécois en lui donnant de la crédibilité économique. Mais Camilla, tu vas soulever aujourd'hui les problèmes avec la politique pour les magnats des médias.
Effectivement, parce que les problèmes, en fait, ils sont assez évidents quand on y pense un peu. Là. Un journal n'aura pas tendance à mal dépeindre son propriétaire. On pourrait dire que c'est une question d'instinct de survie même. Donc, dans ces circonstances, comment est-ce qu'une information, on peut avoir une information balancée ou prétendre même à une certaine objectivité? C'est impossible.
Oui, mais Péladeau n'était pas le seul à avoir tenté l'expérience du magnat des médias en politique.
Oui, puis le rapprochement est souvent fait avec Silvio Berlusconi, le président italien. Au niveau de la personnalité des deux hommes, il n'y a rien à voir. Rappelons quand même que Berlusconi avait déclaré en 2010 qu'il accepterait les jolies filles... qu'à défaut d'accueillir les réfugiés en Italie, il accepterait les jolies filles d'Albanie. Donc, tout en populisme, charmant homme qui possède lui aussi un empire médiatique et c'est un homme d'affaires assez influent. Le cas italien est probablement extrême parce que même l'égalité des élections sera mise en compte là-bas. Là, donc, c'est pas vraiment, disons, la même game qu'au Québec. Berlusconi a un contrôle étroit sur les médias qu'il possède, puisqu'il possède un grand nombre des chaînes de télévision, de journaux et même la plus importante compagnie d'édition du pays. Il aurait été jusqu'à obliger les principaux médias, on parle de chaînes de télé et de journaux, à changer de directeur, ces directeurs après avoir été élus. Donc, ces derniers lui sont maintenant acquis.
Donc, on est donc à un tout autre niveau que Péladeau, même si ça peut quand même nous servir d'avertissement.
Oui, effectivement, mais d'aucuns préfèrent comparer PKP à Rupert Murdoch, qui est d'origine australienne. Il possède de nombreux médias aux États-Unis et au Royaume-Uni, avec deux entreprises, premièrement News Corp et 21st Century Fox. Donc, pour vous faire un portrait rapide de son œuvre, on dit de lui que c'est l'inventeur du tabloïd moderne, donc des journaux sensationnalistes, et que, dans le fond, Murdoch se trouve, avec son influence énorme et sa mainmise sur les médias, à bâtir la façon dont les gens voient le monde. Donc, c'est toute l'importance que les médias ont parce qu'ils présentent l'angle, ils présentent l'information au grand public. Puis, et aussi, d'un côté, puis de l'autre côté, à influencer les politiciens, donc grâce à son argent, on imagine bien.
Donc, on remercie M. Murdoch pour son invention du tabloïd moderne. Yay. Il a rendu service à l'humanité tout entière. Mais Camilla, c'est quoi la convergence des médias?
Oui, parce qu'on en parle beaucoup. Puis, en fait, c'est quand un nombre restreint d'entreprises possède un grand nombre de médias. GESCA détient de nombreux médias imprimés. La presse en est un exemple. Mais, évidemment, aujourd'hui, je vais vous parler plutôt de Québécois. Ce qui va souvent être fait, c'est qu'une nouvelle va être reprise par tous les médias de la compagnie, chacun renvoyant la balle à l'autre pour qu'au final, chaque composante de l'entreprise fasse du profit. On parle beaucoup de Star Academy. En ce moment, c'est pas en onde, mais si je ne m'abuse, Julie Snyder détient les droits d'auteur de l'émission. Donc, l'émission qui est diffusée à TVA est reprise dans les nombreux journaux, magazines, sites internet de Québécois. Donc, l'information passe d'un média à l'autre.
Et puis quand c'est un événement particulier à Star Academy, la une de tous ces journaux, et puis on en parle partout, là, on y fait référence partout.
Ouais.
Mais au-delà du profit pour ces entreprises-là, il y a aussi quand même la question de la qualité de l'information qui se pose.
Oui, puis c'est le pire d'après moi parce que les événements sont repris par LCN ou TVA ou même les journaux comme si c'était de l'information réellement importante parce que, en fait, on parle de télé-réalité tout de même avec Star Academy. Hein. Puis toute cette présence a de l'influence sur la politique et sur la société. Et parce que si c'est la seule chose qu'on voit, puis c'est vraiment un bombardement d'informations qu'on voit, nous, qu'on reçoit comme citoyens, bien, on se dit, OK, alors si Star Academy a été couvert autant ou beaucoup plus que certains autres événements, c'est probablement parce qu'elle est autant ou plus importante que ces autres événements, tandis qu'évidemment, c'est pas du tout le cas. Puis donc, on va parler de Star Academy dans les journaux que je mentionnais tout à l'heure. On a le Journal de Québec, le Journal de Montréal, le 24 heures qui est distribué dans le métro, mais aussi dans les magazines comme le 7 jours. Et les radios sont pas à l'abri de ça, bien que je pense que Choc, pour le moment, soit toujours à l'abri. Puis on retrouve aussi Star Academy, on retrouvait, pardon, sur des portails Internet comme Canoë, dont l'importance a drastiquement diminué au cours des dernières années. Donc, on voyait cette omniprésence de Star Academy dans l'univers médiatique québécois, puis ça donne, évidemment, ça envoie comme message que c'est très important comme nouvelle, le gagnant de Star Academy, et ça prend beaucoup plus d'importance que d'autres informations, par exemple de l'information internationale, qui, elle, constitue moins que 8%, dépendamment des années, ça change un petit peu, dépendamment des bombes qu'il y a de l'autre côté de l'Atlantique, mais la couverture que l'information internationale a est extrêmement minime, puis c'est désolant quand on voit que c'est le Canadien ou Star Academy qui occupe l'espace.
Donc, on n'est vraiment pas à l'abri de ces conglomérats médiatiques-là, mais en faisant de la radio à Choc, on s'en protège un peu plus.
Oui, puis c'est vraiment intéressant de penser que, bon, c'est peut-être en se tournant vers des médias indépendants qu'on peut encourager des choses différentes.
Bien, sur cette belle réflexion, merci beaucoup, Camilla. On va se quitter en chanson pas très longtemps avec Ouya de Nozou. We'll be right back. C'était Ouya Ouya de Nozu. Donc, sur leur album Afterlife, vous écoutez La Faute aux médias en compagnie d'Emilien Roscanou à l'animation. En deuxième partie d'émission, on va se tourner vers Francis Huot. Donc, encore sur notre thème principal de l'émission qui est Pierre-Carl Péladeau ainsi que la relation entre médias et politique. Donc, Pierre-Carl Péladeau et son ex-femme, Julie Schneider, formaient un des couples les plus puissants du Québec. Ils contrôlaient à eux deux une proportion importante des médias et du contenu culturel dans la province. Francis, tu vas nous parler un peu de ce qu'on peut appeler l'Empire Péladeau-Schneider.
Merci, Émilien. Effectivement, mais plus précisément, je veux vous parler aujourd'hui du déclin de l'Empire Péladeau-Schneider. L'idée m'est venue quand, cette semaine, suite à l'annonce du départ de M. Péladeau du Parti québécois, Jean-René Dufort a publié sur la page Facebook d'Infoman, et je cite, « Vous venez de voir le dernier épisode de la saison de House of Carl », en référence évidemment à la série américaine House of Cards. Ça m'a bien fait rire, puis j'ai trouvé ça surtout très bien pensé.
C'est génial.
Vraiment.
Oui, parce qu'il y a quand même des liens à faire entre le duo Péladeau-Schneider et Frank et Claire Underwood, les deux personnages principaux de House of Cards.
Tout à fait, Émilien. Pour ceux qui connaissent pas la série, en gros, c'est l'histoire de Frank Underwood, un politicien américain sans scrupules qui cherche à atteindre le pouvoir à tout prix. Son but, c'est de devenir le président des États-Unis. Et, spoiler alert, il réussit, mais pour combien de temps, ça, on sait pas encore. C'est ça l'intrigue de la série. Sa femme, Claire Underwood, a milité au début de la série dans une ONG qu'elle dirige. Elle n'est pas impliquée directement en politique, mais elle joue quand même un rôle de leader dans la société civile. Évidemment, la cause qu'elle défend dans son ONG semble peu lui importer. C'est plus l'influence que ça lui donne dans le monde politique qui compte pour elle. Elle offre un support presque infaillible à son mari. Mais le presque est quand même important parce que, en fait, il est quand même important dans la série. C'est une femme forte qui se laisse pas marcher sur les pieds, un peu comme Julie Snyder. Ce qui est important de retenir, c'est que les deux personnages forment un duo dans la série. Et c'est toutes leurs actions individuelles qui sont... toutes leurs actions individuelles sont menées dans le but de les amener les deux au pouvoir à un moment ou à un autre. Donc dans leur stratégie de vie, chacun aura son heure de gloire. Frank atteint la Maison-Blanche et Claire cache pas son ambition de devenir présidente des États-Unis quand Frank aura effectué ses deux mandats. Donc un peu comme le couple Clinton est en train de le faire dans la vraie vie.
c'est vrai qu'à plus petite échelle, le couple Pilato-Schneider semble pas avoir une influence semblable à celle des Underwood dans la politique québécoise quand même.
Oui, exactement, mais je veux pas être mal interprété non plus parce que PKP et Julie Snyder sont sûrement pas aussi vicieux que les Underwood, mais le parallèle existe quand même entre les deux couples selon moi. Je me suis dit qu'il pourrait être drôle de faire la petite histoire du couple Pilato-Schneider pour mieux comprendre comment leur empire s'est construit, puis aujourd'hui ce qui en reste. Donc, en 1991, PKP devient président de Québecor, une imprimerie fondée par son père Pierre Pilato. En 1998, 7 ans plus tard, Québecor fait l'acquisition de Sun Media et devient le deuxième plus gros groupe médiatique au Canada. En 2000, Québecor fait l'acquisition de TVA, le premier radiodiffuseur de langue française au Canada, et de Vidéotron, le plus important câble-distributeur au Québec. Dans les années suivantes, les acquisitions de médias et d'entreprises liées à la câble-distribution vont se multiplier, ce qui fait en sorte que Québecor devient un véritable empire médiatique, sans contredire le plus important au Québec.
Pendant ce temps-là, Julie Snyder développait de son côté Production J.
Exactement. En parallèle à ça, en 1997, l'animatrice Julie Snyder a fondé Production J, une société de production télé, vidéo et de spectacle. Plusieurs des émissions qui sont produites par Production J, pour pas dire la quasi-totalité des productions de l'entreprise de Julie Snyder, étaient destinées aux chaînes de Québecor. Donc, les exemples les plus récents sont, entre autres, Vol 920, L'été indien, La Voix et Star Academy, comme le mentionnait Camilla. Julie Snyder et Production J ont donc laissé leur marque sur le contenu médiatique de Québecor et Québecor a contribué de façon importante également au succès de Production J.
Petit fait cocasse aussi, les bureaux de Production J à Montréal sont au même étage que les bureaux du Parti québécois.
Ah oui! Quel drôle de hasard!
Quel heureux hasard!
Donc le lien entre Julie Snyder et Pierre-Carl Pilato à l'époque où ils étaient ensemble était quand même plus qu'amoureux.
Exactement. Ils étaient complémentaires en affaires. Mis ensemble, leurs deux entreprises, Québecor et Production J, constituait un véritable empire médiatique. Et quand Pilato décide de se lancer en politique, puis éventuellement de devenir chef du PQ, tous les espoirs étaient permis pour le couple princier du Québec. Donc tout était en place pour qu'il devienne premier ministre du Québec et peut-être éventuellement premier ministre du pays du Québec. En plus, Julie Snyder et lui auraient pu continuer à contrôler leur empire médiatique en même temps. Donc ça aurait été littéralement une version améliorée de House of Cards, mais en plus, les protagonistes auraient contrôlé un empire médiatique. D'où le House of Carl de Jean-René Dufort.
Mais malheureusement pour eux, la fin hollywoodienne n'aura pas lieu.
Effectivement, Emilien, c'est la déchéance totale pour le couple Pilato-Snyder. Pierre-Carl Pilato a dû quitter la chefferie du PQ, et en plus, il n'est plus président de Québecor, et Julie Snyder a dû vendre une partie importante de Production J à cause justement du saut en politique de son ex-conjoint Pierre-Carl Pilato. Et ça, c'est en plus de la séparation. Donc on est face à un père et une mère monoparentale sans emploi.
Ah oh non, mais que vont faire leurs enfants? Espérons que ce soit pas prémonitoire de la fin de House of Cards. Merci beaucoup, Francis.
Merci, Emilie.
Donc, en dernière partie d'émission, vous écoutez toujours La Faute aux médias sur choc.ca. On va s'interroger un peu sur l'avenir du Parti québécois maintenant que Pierre-Carl Pilato a quitté comme ça en grande pompe cette semaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont vos pronostics pour l'avenir?
Aucun avenir.
Aucun avenir pour le Parti québécois.
C'est radical.
Destruction totale du parti.
Donc, est-ce que vous pensez que ça peut aller en s'améliorant? Est-ce que vous pensez que, bon, Pierre-Carl Pilato, son court passage, aura fait plus de mal que de bien pour le parti?
Ben, je dirais, pour citer Françoise David, là, qui a dit, en réponse à sa démission, que quand un projet est suffisamment bien implanté, ça ne devient pas le projet d'un homme, ça devient le projet d'un peuple, puis le projet peut survivre à sa disparition. D'autant plus qu'il est resté très peu de temps. À mon avis, son héritage n'est pas énorme.
Effectivement.
Non, c'est ça.
Concernant l'avenir du PQ, je ne sais pas si... Je ne suis pas en mesure de dire si ça va aller en s'arrangeant ou pas, mais de ce que j'ai vu dans mes recherches pour ma chronique, il semble toujours se relever après une crise. Donc, pourquoi pas cette fois-ci?
Mais il se relève, mais de moins en moins fort.
Oui, exactement.
Malheureusement, c'est l'impression que j'en ai. Là. Je ne vais pas être partisane trop, mais... Yeah.
Non, mais c'est vrai, là, les appuis du Parti québécois descendent d'élection en élection. Puis là, ils stagnent un peu. Là. Ils peuvent pas descendre en bas d'un certain point d'appui minimal, là, comme impossible. Le Parti libéral.
Tout est possible,
Mimi. Parce qu'il y a certains comtés qui sont vrai, des châteaux forts. Mais quand même, là, s'ils sont toujours à leur seuil minimal, élection après élection, c'est quand même problématique.
Mais je me demande, un peu pour revenir, pour rebondir, ce qui va se passer avec la course à la chefferie, parce que ça fait même pas un an que la dernière course à la chefferie s'est terminée. Donc, les candidats qui avaient récolté un faible pourcentage des votes, comme je pense entre autres à Bernard Drainville ou Jean-François Lisée, même s'ils ont des idées à apporter qui sont différentes de celles des autres, je suis pas sûr qu'ils vont se risquer à se représenter pour une deuxième course à la chefferie, sachant qu'ils ont peu d'appui dans le parti et que les choses ont pas changé tant que ça. Donc, ça va être intéressant de voir si on assiste à un couronnement, peut-être, ou à une course plus restreinte.
Oui, compte tenu aussi du congrès qui s'en vient rapidement du PQ, né, puis qu'ils vont devoir peut-être remanier parce qu'ils vont pas avoir eu un chef qui va avoir mis la table assez longtemps avant, de ce que j'ai compris.
Non, c'est ça. Il y en a plusieurs qui pensent que peut-être que Alexandre Cloutier reviendrait ou Véronique Yvon aussi. Mm-hmm. Ça va être intéressant de voir comment ça va se dérouler. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez là pour la suite.
Oui, effectivement, puis ça va être intéressant de voir ça va être quoi peut-être la stratégie des militants du PQ, parce que on en discutait avant l'émission un peu avec Camilla, puis c'est bien pour un parti d'avoir une course à la chefferie qui peut s'étirer, parce que le parti pendant ce temps-là occupe l'espace médiatique, mais en même temps le parti se divise un peu publiquement pendant une course à la chefferie.
Exact, puis c'est pas une bonne image qui nécessairement qui renvoie au public.
Exact, c'est ça, puis ça s'est passé il y a à peine un an. Donc là, on répète l'exercice. Ça va, pendant deux ans sur trois, pendant le mandat du Parti libéral, le Parti québécois va se déchirer sur la place publique. Donc, ça va être intéressant de voir ça va être quoi les conséquences pour le Parti québécois.
Oui, c'est ça. C'est un dossier chaud à suivre. Donc, la politique québécoise est toujours aussi passionnante. C'est malheureusement tout le temps dont on disposait. Donc, je veux encore remercier mes collaborateurs Francis Huot, Camilla Rodriguez-Séa, ainsi que Myriam Bernet au micro. Ici Émilien Roscanou. Vous écoutez La Faute aux médias. On se revoit la semaine prochaine et puis on se laisse en chanson avec See How It Goes de Tough Crowd.
Had five on it, and I promised myself to stay right honest to my kind of vibe till I die and lie in my coffin. But life often takes you down roads you don't choose. Might lose hopes or confuse, but we've all walked that walk in those shoes. Till souls have worn through, suppose that's called blues. Need to see how it goes. There's no crystal ball to predict your fall. Mistakes give the gift of wisdom. Will you wish for more? Rather get it right the first time.
Never stop the turbine.
That exists within us all, cause it's a hell of a job getting the propellers unblocked when your efforts were not good enough to get you on top. Regretful of what the people around think that they found, not just a collection of atoms that exist in the now. Gotta see how it goes.
The odds are 1 in 2. A right or wrong choice made that.
Tu as un intérêt marqué sur un sujet particulier? Jusqu'au 4 mai, soumets ton projet d'émission et tu pourrais devenir un des collaborateurs de Choc.ca dans notre programmation d'été 2016. Tous les sujets sont permis. Information, sport, environnement, politique, humour, musique, culture, contre-culture. Cet hiver, joins-toi à une équipe diversifiée qui axe son travail sur la découverte du monde sous un œil différent et qui nage à contre-courant.